sa devise, en tout, liberté.
À quoi servirait-il de vivre si ce n'était dans l'espoir de s'améliorer? Et c'est pour ça que sa vision de la révolution n'est pas du tout pessimiste. Elle ne condamne pas la révolution. Elle en tire ce qu'il y a de meilleur parce que la révolution a ouvert la voie à la notion de perfectibilité. On a vu, même à travers des périodes sanglantes, qu'on pouvait aller vers le meilleur parce que, en dépit de tout, la raison progressait. La connaissance des autres sociétés montrait que l'homme avançait dans la voie de l'universalité.
Prénom ?
Germaine. Parente de Stahl.
Sa date de naissance ?
Le 22 avril 1766 à Paris.
Des nationalités diverses ?
La suédoise par son mariage avec le baron de Stahl, mais suisse par son père, Necker, le célébrissime ministre des Finances de Louis XVI. Cela la protégera de ne pas être française dans ses démêlés avec les révolutionnaires et puis avec Napoléon, qui l'exilera dans son château de Coppet au bord du lac Léman. En 1812, elle le fuira pour rejoindre Londres par l'Autriche, la Russie, la Suède. C'est une Européenne qui se présente comme telle.
Et des amours.
Oh, comment les compter ? D'autant qu'elle n'aimait pas les exposer, contrairement à ce que dit sa réputation. Sa longue relation avec Benjamin Constant va marquer l'histoire des lettres comme de la philosophie politique.
Quelles sont ses œuvres principales ?
Ses romans, Delphine, Corinne ou L'Italie, qui connaissent un succès considérable. Son récit autobiographique, 10 années d'exil, et puis ses œuvres politiques qui vont connaître, elles, une influence durable, notamment De l'Allemagne, publiée à la barbe de Napoléon, et ses considérations sur la Révolution, publiées après sa mort.
Et sa mort, justement ?
En 1817, assez prématurément, un 14 juillet, symboliquement.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier ?
Eh bien, de Rousseau, son maître, elle a repris le programme, s'élever vers la vérité. Pas facile dans son cas, parce que dans sa vie, elle a connu quelques 7 régimes politiques. La Révolution l'a surprise par son cours imprévu, mais remontant vers sa source, elle l'a trouvé fondamentalement juste, en dépit des excès qu'elle a provoqués. Suivre sa pente en la remontant, aller plus haut. Alors même si des centristes peuvent se reconnaître en elle, ce n'est pas une femme du milieu, mais du meilleur. De son vivant, on a tracé d'elle quantité de portraits contrastés. Tenez, Lamartine, jeune et enamourée, la guettait dans un buisson alors qu'elle regagnait son château de Coppet.
Le poète avait 25 ans. Il voulut voir Madame de Stahl. Il se lève dès l'aube et, muni d'un morceau de pain, il va se cacher dans un fossé de la route qui mène de Genève à Coppet. Il reste ainsi de 9h du matin à 2h de l'après-midi, jusqu'au moment où il voit passer devant lui une calèche découverte avec 2 femmes en qui il reconnaît Madame Récamier et Madame de Stahl. Heureusement, comme la route montait, les chevaux s'étaient mis au pas. L'une des 2 femmes, écrit Lamartine, était Madame Récamier, dont la tête angélique et la beauté m'éblouirent. La 2e était celle que je cherchais. Elle était, selon son habitude, coiffée d'un turban des Indes, dont les couleurs variées donnaient des reflets magiques à son front, qui ombrageait 2 yeux proéminents d'une forme et d'un éclat splendide. Ses yeux étaient toute sa physionomie. Il parlait plus que sa bouche. Le génie avait passé dans son cortège de beauté.
Cortège de beauté ? Madame de Stahl, elle, n'aime pas se voir en peinture.
Ces portraits de Stahl, alors il y en a beaucoup, on a de la chance par rapport à d'autres, mais ils sont toujours un peu cachés, un peu guindés, toujours avec des robes... Elle aime les robes, hein, on sait qu'elle y accorde beaucoup d'importance. Elle aime les châles, mais elle aime aussi quand même qu'on ne voit pas spécialement son corps. On lui a aussi beaucoup répété dans sa jeunesse et depuis son enfance, et sa mère en particulier, qu'elle n'était pas belle. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'être belle en soi et à son époque encore moins, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne semble pas correspondre au canon de beauté de l'époque, par exemple, qui exige des femmes qu'elles aient une peau claire, alors que Stahl a une peau apparemment mate, une peau de brune, très bronzée, ce qui est doublement infamant à l'époque, parce que non seulement elle n'a pas la peau assez claire, mais en plus, avoir une peau un peu brune, un peu bronzée, un peu mate, c'est socialement dévalorisant. À l'époque, ça veut dire que vous passez du temps à l'extérieur, que vous travaillez. Bref, quand vous êtes, vous appartenez à une élite sociale, vous devez avoir la peau claire. Donc Stahl est une espèce de figure atypique et dont on a beaucoup dit, par exemple, que ses bras étaient les plus laids qu'on ait jamais vus. Donc elle a du coup un complexe de bras. Tout le monde vous parle de ses bras. Et elle se déteste quand elle se voit en peinture, hein, parce qu'elle a commenté elle-même plusieurs de ses tableaux. Et il n'y en a aucun qui trouve grâce à ses yeux. Donc elle a elle-même intégré le fait qu'elle était laide. C'est assez, assez intéressant.
C'est Stéphanie Genant que vous venez d'entendre, la jeune présidente de la Société d'études staliennes. Elle sera notre première interlocutrice. Les châles qui se superposent et qui enveloppent le corps. Dans l'écriture, pareillement, Germaine de Stahl dissimule des traces trop personnelles. Notre second interlocuteur, ce sera Laurent Theiss, éditeur de Germaine de Stahl, et bientôt il y tient, de Stéphanie Genant. Lui voudrait entendre la voix de Madame de Stahl.
Elle ne baritonnait pas, je pense qu'elle avait une voix relativement chantante. Je le pense pour deux raisons. La première, c'est que elle subjuguait par sa conversation, qui n'a pas connu Madame de Stahl dans la conversation, peut bien la lire, il ne la retrouvera pas telle qu'elle était. Donc, subjuguant par une tessiture qui forcément attirait l'attention au milieu d'une compagnie souvent de 30, 40, 50 personnes, cette compagnie qu'elle recevait chez elle, à Paris, ou dans son château de Coppet, au bord du Léman. Et cette voix, beaucoup s'y sont pris alors qu'ils s'approchaient d'elle avec un préjugé défavorable, en la prenant pour une phraseuse, peut-être même pour une prétentieuse. Et au bout de quelques minutes, et même de quelques heures, parce que les soirées commençaient à 18h, à 6h du soir, et se terminaient généralement peu avant 2h du matin, ce qui fait que les hôtes de Madame de Stahl étaient épuisés. Et d'autre part aussi, sa voix devait être particulièrement bien placée, parce qu'elle a écrit et beaucoup joué la comédie et la tragédie. Elle était tragédienne, en ce sens qu'elle a écrit des pièces de théâtre, elle a même commencé par ça, et elle adaptait aussi des pièces de théâtre, elle les faisait jouer par la compagnie. On arrivait le vendredi soir, et le dimanche après-midi, on devait donner un acte ou deux d'Iphigénie, enfin de Racine, de Corneille, ou d'autres. Et elle retenait souvent ses invités, elle était sensible à la voix, elle choisissait ses invités en fonction de leur voix. C'est ainsi qu'un jour, le jeune Guizot est venu la voir, en 1806, et elle lui a dit « Monsieur, restez, vous allez jouer la tragédie, car vous avez une voix que je n'ai jamais entendue jusque-là. » Donc c'est cela d'abord que je voudrais connaître, que j'aurais voulu connaître, car je crois qu'il est trop tard, chez Madame de Stahl.
La vie sociale avec son théâtre, elle l'a appris auprès de ses parents Necker, dont la vie familiale faisait exception à l'époque tant on y disait, à très haute voix, qu'on s'y aimait. La barre d'emblée a été placée très haut. Comment être la fille rêvée de Suzanne, sa mère, et comment satisfaire Jacques, son père ?
Son père est le ministre adoré, hein, la figure politique adorée. Pourquoi ? Parce qu'il a pris des mesures progressistes, envers les catégories les plus défavorisées de l'Ancien Régime, hein, ce qu'on appelait le tiers-État, des mesures à la fois politiques et financières. Stahl, elle est la fille d'un ministre adoré, mais on n'a pas idée de la ferveur dont jouit Necker à l'époque. Enfin, si on veut en avoir une idée aujourd'hui, il faut aller au musée Carnavalet à Paris, où se trouve toute une collection aujourd'hui, encore 200 ans après, de vaisselle, hein, à l'effigie de Necker, les tasses, alors c'est pas les magnets d'aujourd'hui, mais c'est un peu la même idée, c'est qu'on va décliner la figure de l'homme aimé sur toute la vaisselle. Bon, ça c'est le père et la mère.
Mais la mère, elle dit, Je ne sais pas le langage du monde, je ne sais que me taire dans les salons. Et
mais
c'est une figure si importante.
Oui, mais son salon, en fait, la mère, pour soutenir la carrière de son mari, effectivement, elle n'a pas d'autre choix que d'avoir un rôle un peu marginal, un peu en coulisses. Et donc, elle tient un salon à partir des années 1775, à peu près, qui devient très rapidement un salon qui se tient dans le Marais. À l'époque, qui devient un des salons, un des lieux publics les plus en vue, aussi bien pour la scène politique que pour les échanges intellectuels. Et elle invite les gens les plus en vue. Et donc, à l'époque, pour être un homme en vue, il faut avoir eu sa soirée chez les Necker, qui se tiennent les vendredis. Donc, la mère aussi, même si ce n'est pas sa voix qu'on entend, contrairement à son père, la mère aussi est une figure très célèbre. Tout le monde connaît Suzanne Necker.
Mais il y a un terrible jeu de passion, de tension entre les deux parents et la fille unique.
D'abord, ils sont très conscients du fait de former une famille un peu à part, ou un peu où les choses se vivent de manière plus forte qu'ailleurs, puisqu'ils l'ont écrit plusieurs fois. Hein. Ils écrivent sur eux, déjà. Hein. C'est une famille qui se regarde, qui s'analyse, qui se prend pour objet d'elle-même, qui est consciente de sa spécificité. Et lorsque cette famille Jacques, Suzanne et donc Germaine écrit sur elle, ils disent « Nous sommes une singulière famille ». C'est une formule qui revient dans tous leurs textes. On n'en fait pas beaucoup des comme nous, quoi. On pourrait dire ça aujourd'hui.
Necker et les membres de sa famille écrivent les uns sur les autres. Oui, enfin, Necker aime modérément que sa fille écrive. Necker aime modérément que sa femme écrive pour elle, même si après sa mort, il publie des mélanges, des fragments qu'il a assemblés lui-même.
Alors ça, c'est vrai que c'est le côté obscur de Jacques Necker, je trouve. Autant on dit toujours que c'est un homme de progrès, et c'est vrai, dans le contexte politique et moral de son époque, ça l'est. Hein. C'est un homme vraiment dont on pourrait attendre qu'il soit très progressiste aussi sur la sphère domestique, et c'est pas le cas. Il y a effectivement une réticence chez lui à ce que les femmes écrivent et à ce que les femmes de son foyer, en l'occurrence sa femme et sa fille, publient. À la limite, il concède l'écriture dans un cadre privé. Suzanne a le droit d'écrire. De fait, Suzanne va écrire toute sa vie. Et c'est effectivement, le paradoxe veut que, après la mort de Suzanne Necker en 1794, l'ensemble de ses textes soit publié par Necker au terme d'une fabrique, d'une sélection, puisque Necker va s'auto-proclamer éditeur. Et donc aujourd'hui, on ne connaît de Suzanne Necker que ce que Jacques a bien voulu laisser passer à la postérité. Donc la fille, quand elle commence à écrire, elle subit les mêmes pressions. Hein. Il a dit à Suzanne, tu n'as pas le droit de publier. Il dit à sa fille, tu n'as pas le droit de publier. Et elle l'écrit dans son journal en 1785, donc là Stahl a 19 ans. Mon père n'a jamais supporté une femme auteur.
Oui, il appelait les dames autour de lui les dames de Saint-Écritoire, Jacques Necker. Germaine ne va cesser d'écrire des textes romanesques et politiques, mais aussi bien dans la même journée ses lettres à son amant du moment ou le courrier destiné à son notaire pour tirer le meilleur parti de son héritage familial. Quelques textes de jeunesse incontrôlée témoignent d'une préhistoire sauvage de sa plume. Ainsi, trois nouvelles précoces exhumées il y a peu et que Stéphanie Genant vient de publier. Les personnages en sont des femmes qui portent la folie au cœur. Oui, la maîtrise d'elle-même n'est venue que tardivement à Madame de Stahl. Et le léman au bord duquel elle vivra si longtemps est parfois agité de tempêtes telles que Germaine s'y jetterait bien, se noyer. Il lui était temps demandé.
La position de Necker, son père donc, l'a fait participer de très près au début de la Révolution. Mais la Révolution n'assure bientôt plus aucune position, Monsieur Lebrun.
Oui, Necker, qui avait été si populaire, doit quitter son poste. En septembre 1790, il se réfugie en Suisse, chez lui. À la fin de 1791, Germaine affiche encore sa proximité avec un nouveau ministre, Narbonne, c'est son amant. Mais sa fortune ne dure guère.
Demandez les intrigues de Madame de Staël, où l'on raconte comment la dame reçoit les royalistes le matin, les Girondins à dîner, les Jacobins à souper, et la nuit, tout le monde. Demandez les intrigues de Madame de Staël, où l'on raconte les querelles pour garder ses amants. Elle n'épargne rien, rien du tout, pour faire des hommes à son père, et son père ne refuse rien, rien du tout, aux hommes qu'elle lui a fait. Demandez les intrigues de Madame de Staël.
Après la chute de la monarchie, août 1792, elle sauve quelques amis dans Narbonne. Septembre 1792, elle échappe au massacre. Et elle aussi, après son père, gagne la Suisse providentielle. Laurent Theiss.
Elle a couru des risques dans la mesure où elle-même s'est mise en danger parce que ses amis, Mathieu de Montmorency, Talleyrand, le comte de Narbonne, son amant, le chevalier de Jaucourt, beaucoup de bons esprits... ces monarchiens, ou ces légitimistes, ou ces royalistes constitutionnels, à partir de 1791, du 10 août, et puis la terreur commence à grandir, elle s'est occupée à les protéger. On la voit aller devant le comité de salut public, enceinte de 6 mois, pour défendre un tel ou un tel, et elle-même étant arrêtée, obtenant de la part de certaines complicités, celle de Fouché, qui n'a jamais quitté, pour s'extraire de là. Mais c'est une femme qui n'avait pas peur.
Plus tard, depuis la Suisse, elle défendra Marie-Antoinette en tant que femme. D'un autre côté, elle se refusera à faire porter à Robespierre et à quelques autres toutes les responsabilités de la terreur. On a voulu fabriquer de belles constitutions et les poser tel un toit sur des murs qui n'existaient pas encore, sur une population qui n'était pas éduquée. Et si les passions viles se sont déchaînées, c'est que la Révolution a souffert d'un phénomène d'accélération inouï que personne ne pouvait contrôler. La Révolution a quitté la piste.
Au fond, les Lumières n'avaient pas encore assez diffusé dans l'esprit public lorsque les événements de la Révolution, provoqués par des circonstances immédiates, la Révolution s'est déclenchée. Et au fond, la société n'était pas mûre. Et au lieu d'établir un régime de raison, avec une constitution, avec des institutions qui fussent pensées en fonction de l'état social, on s'est précipité dans le torrent des passions, et donc la terreur est née de ça, c'est-à-dire la terreur n'est pas née de la République et au fond des constitutions, mais elle est née du fait que la République et les institutions n'étaient pas en équation avec l'état social, l'état politique, l'état intellectuel de la société. C'est donc ce décalage qui a produit la Révolution. Mais à aucun moment, elle n'a pensé que la Révolution était un bloc. Au contraire, jusqu'en 1791, elle accompagne le mouvement, elle en voit les dangers, elle en voit aussi les avantages, et au fond, elle a ce rêve de conjuguer le centre droit et le centre gauche, qui est une vieille tentation française depuis la Révolution, peut-être même avant d'ailleurs, si vous réfléchissez bien. Et c'est à quoi ? Donc elle a été républicaine modérée, et en appelant les royalistes constitutionnels à former ce bloc raisonnable pour éviter les extrêmes.
Ceci sera bien pensé dans ses considérations ultérieures sur la Révolution française qui paraîtront après sa mort. Tout en voyageant là où les guerres révolutionnaires ne ravagent pas les pays, elle passe maintenant l'essentiel de son temps à Coppet. Suzanne y est morte en 1794, mais Necker y demeure encore jusqu'à sa propre disparition en 1803. Il joue maintenant un double rôle d'ange tutélaire et d'assistant de sa fille, Stéphanie Genant.
Coppet se trouve en Suisse, mais tout près de la frontière française. C'est entre Lausanne et Genève, c'est à équidistance entre Lausanne et Genève. Donc c'est tout près de Genève, c'est tout près de la frontière française. Mais ce n'est pas la France. Donc ça, c'est stratégique pour Staël, dans le contexte politique compliqué qu'est le sien. Elle trouve à Coppet une oasis, un refuge, une retraite. Qui lui permet d'échapper aux persécutions policières, aux tyrannies politiques, ça c'est très important. Donc Staël, il reçoit du coup tous ses amis, et il recrée un salon intellectuel de gens libres qui veulent penser l'Europe autrement que Napoléon ne la pense, et ces gens-là forment une constellation d'intellectuels italiens, anglais, écossais, allemands, russes, bref, de toute l'Europe surtout, et qu'on appelle aujourd'hui le groupe de Coppet. Et après, c'est aussi un lieu de vie où on a l'impression, je sais pas, j'y étais pas, mais quand on lit les témoignages, un peu bohème, c'est vrai. On a l'impression que voilà, les gens passent beaucoup de temps à discuter. On discute, on écrit, on fait du théâtre, beaucoup. Elle aime beaucoup ça, elle adore jouer, elle adore qu'on lui joue des pièces, mais elle adore jouer elle-même, c'est une grande actrice, au dire de ses contemporains. Donc on s'amuse, c'est toujours très intellectuel, hein, c'est toujours des plaisirs assez culturels. On mange à n'importe quelle heure, on se couche tard, et c'est vrai, quand on regarde les témoignages de l'époque, on a l'impression que c'est vraiment la liberté, pas seulement dans les idées politiques et la manière de considérer l'Europe, mais aussi dans les mœurs. Et puis du coup, on écrit, on discute, on écrit les choses de manière collective. C'est ça aussi Coppet, c'est un creuset littéraire. Et qui a écrit quoi, sachant que la plupart des textes naissent de soirées où pendant 6 heures, on a parlé de ce que c'était que le drame allemand. Donc c'est un grand moment d'effervescence qui a l'air assez joyeuse, assez positive. Tout le monde est triste quand ça s'arrête.
J'accueille encore mieux qui revient, disait-elle. La vie à Coppet, elle est pleine comme un œuf. Et il y a parfois tant d'invités dans les salons que les domestiques doivent apporter les rafraîchissements par les fenêtres. Plus bas, dans la prairie qui descend vers le lac, les conversations se font plus intimes. Mais le plaisir est à son plus haut quand le grand écrivain Benjamin Constant, le grand amour de Germaine, est là.
Un couple comme celui-là, c'est extraordinairement rare. Ça dure de 1794 quasiment jusqu'à la fin. Le plus beau, la plus belle notice nécrologique écrite sur Germaine de Staël en juillet 1817, puisqu'elle a eu la délicatesse de mourir le 14 juillet, ce qui est quand même extrêmement chic. C'est, dans le Mercure de France, c'est sous la plume de Constant qu'on le trouve. Il y a des accents pour son ami qui sont d'une sincérité qui n'est pas courante chez lui, exceptionnelle. Et alors ce tandem a fonctionné, et c'est pour ça aussi que, dans la correspondance des amis de Madame de Staël, quand Benjamin Constant était là, alors, si vous voulez, on était dans un spectacle, dans un auditorium, qui n'a jamais, je pense, été égalé. Elle faisant l'objection, ou lui se relançant, cherchant le paradoxe, sans quitter les limites de la raison, mais en l'enjolivant de références littéraires, parce que ce sont deux cultures qui parlent aussi bien latin et anglais que français. Et je crois qu'ils se sont fécondés par la conversation, outre le fait qu'ils ont eu au moins un enfant ensemble, Albertine, future duchesse de Broglie. Et malgré des hauts et des bas sentimentaux, des hauts très vifs, des bas très forts, mais les hauts et les bas étaient provoqués par Germaine, qui, comme dans tous les couples, était courageuse, alors que dans tous les couples, l'homme était à l'âge, mais ça, c'est de tous les temps. Et même pendant les périodes d'éloignement, la complicité intellectuelle est restée complète. D'une part dans les convictions, d'autre part dans la culture, enfin dans la façon de s'exprimer, de telle sorte qu'on ne sait pas toujours ce qui est dans chez Staël de Benjamin et ce qui est dans Benjamin de Staël. Non pas qu'ils aient travaillé à deux mains pour des manuscrits, mais malgré tout, chacun lisait par-dessus l'épaule de l'autre et chacun écrivait à l'ombre, ou plutôt dans la lumière du regard de l'autre. C'est donc un entremêlement tout à fait exceptionnel qui fait que c'est une pensée en acte qui, tant qu'ils ont vécu tous les deux, était comme un seul homme.
D'un commun accord, Germaine et Benjamin ont décidé que leur correspondance devait disparaître. Et leurs héritiers ont accédé à ce vœu, à la mort de Constant. Que de baisers perdus dans un grand feu. Madame de Staël, en fait, ne voulait laisser, et encore par étapes calculées, que ce qui pouvait être utile aux autres, les textes politiques. Des textes qu'on dirait aujourd'hui de politique littéraire, avec les plus belles réflexions qui soient sur la liberté, une liberté vécue dans l'ordre, et la responsabilité, pas de liberté sans devoir moral, solidarité, souci de la collectivité. Quand elle parle de politique dans ces années, les toutes dernières du XVIIIe siècle, avec Benjamin Constant, les armées de la Révolution française pénètrent un peu partout en Europe. Et du coup, Madame de Staël se demande, est-ce que les Français n'auraient pas mieux fait d'attendre que les principes de leur révolution soient imités par les autres pays plutôt que de les imposer de force par leurs troupes conquérantes?
Ce qu'il y a de beau dans la Révolution française, c'est qu'elle a été faite par les Français. Ce qui assure la gloire de nos armées, c'est d'avoir repoussé les étrangers qui prétendaient donner une constitution à la France. Dans un pays où les Français voudraient porter la liberté, même à main armée, un républicain comme eux devrait leur répondre. Oui, vos guerriers invincibles pourront être triomphants, mais jamais libérateurs. Je partage vos opinions. Et si vous vous éloignez de nos contrées, de nouveau je soutiendrai les principes que vous professez. Si vous vous en approchez, de nouveau je reprendrai les armes. Les habitudes de la soumission ne préparent point les âmes à la République. Et pour mériter votre estime, braves Français, ce n'est pas vous accueillir qu'il faut, c'est vous imiter. Si tel est le langage que doivent tenir les républicains étrangers, j'ai donc raison de ne considérer aujourd'hui, dans l'Europe nouvelle, que la France, et de penser que d'elle seule doit venir l'exemple et le bonheur.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun, la célébrité de Madame de Staël ne tient-elle pas avant tout à ses romans et à l'incomparable succès qu'ils connaissent ?
Ben oui, Delphine, 1802, Corinne ou l'Italie, 5 ans plus tard. À noter que Adolphe, de Benjamin Constant, paraît entre les deux, 1804. Si on veut lire les romans de Staël avec des catégories dans la tête, on dira que s'y lisent tous les prémices du pré-romantisme. Alors que son amant, Léonce, dans un dernier chapitre mélodramatique, va être amené au peloton d'exécution, encore un révolté, dirait Bonaparte, Delphine se suicide. Oswald, dans Corinne, s'est éloigné de sa maîtresse. Il la retrouve, mais trop tard. Elle pointe le ciel d'un doigt mourant.
Que cela est insensé, diront la plupart des hommes, de mourir pour l'amour, comme s'il n'y avait pas 1000 autres manières d'exister. L'enthousiasme en tout genre est ridicule pour qui ne l'éprouve pas. La poésie, le dévouement, l'amour, la religion ont la même origine. Et il y a des hommes aux yeux desquels ces sentiments sont de la folie. Tout est folie, si l'on veut. Or, le soin que l'on prend de son existence, il peut y avoir erreur et illusion partout ailleurs.
Cette esthétique romanesque du début du XIXe siècle n'est pas tout à fait la nôtre. Mais, pour vous dire vrai, je préfère celle-là plutôt que celle-ci. Je préfère Delphine, ou plutôt Corinne, que certaines autres choses.
Donc, par exemple
ben, je sais pas, je préfère dire du Staël que de la Mélinoton, si vous voulez. Mais ça, c'est off, hein.
Bien sûr.
Hein, Jean?
Ben bien sûr, oui.
Sinon, je vous assigne. Donc, j'aurais été éditeur, j'aurais demandé à ce qu'on supprimât 300 000 signes dans Delphine et 150 000 dans Corinne. Mais j'aurais pu aussi pécher contre l'esprit parce qu'il faut aussi faire masse. Quand on est Madame de Staël, qu'on écrit un roman et qu'il est assez difficile de s'imposer sur la scène publique, y compris dans le monde littéraire, les femmes qui écrivent de romans par rapport à La Nouvelle Héloïse, ou Les Liaisons Dangereuses, ou Chateaubriand et Tutti Quanti, les femmes ne pratiquent que le genre mineur. Hein, Madame de Genlis ou Madame de Duras ou d'autres, c'est dans le genre mineur. Là, c'était pas dans le genre mineur. Si j'ose dire, c'est du lourd. Pour ne pas dire c'est du brutal. Et donc Delphine était un pavé dans une mare qui a fait des ronds dans l'eau très loin, puisque ça a valu son premier exil. Je l'aurais édité aussi tel quel, si j'avais été un bon éditeur, ce qui n'est pas du tout sûr. Parce qu'il était exactement en adéquation avec le temps. Ce que voulaient les femmes, les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes, c'est encore mieux, c'était ça. On voulait du Delphine. Parce que ces personnages étaient des archétypes de rapports nouveaux engendrés par la Révolution entre les hommes et les femmes, la conception du mariage, le divorce possible, le fait que les sentiments ne coïncidaient pas forcément avec la position sociale, mais qui va garder les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait de la fortune, et comment on se débrouille du corset social, comment le corset social et le déchaînement de passions incorsetées pouvaient finalement conduire à un bonheur dont on sait que le deuil était éclatant, puisque vous savez, comme moi, que la gloire est le deuil éclatant du bonheur. C'est ma deuxième devise stalinienne. La gloire est le deuil éclatant du bonheur. Et tous ces romans se terminent extrêmement mal. Mais l'itinéraire qui y conduit, c'est un itinéraire dont on voit que beaucoup de personnages, de personnes même, de gens ordinaires, l'ont emprunté, plus ou moins, dans leur propre vie, parce que la Révolution les achetait sur des voies qui n'étaient pas celles de la génération, des deux générations précédentes.
Madame de Staël et Benjamin Constant ont, un moment, conçu des espoirs dans le destin de Bonaparte, au point d'approuver son coup d'État de Brumaire, 1798, qui pousse même Constant d'un rôle dans la coulisse à une instance officielle, puisqu'il est nommé par le premier consul au tribunat. En fait, aucune des rares rencontres entre Germaine et le général ne se passera bien.
Après dîner, Napoléon s'approcha d'une femme très connue en France par sa beauté, son esprit et la vivacité de ses opinions. Il s'arrêta devant elle, droit comme un prince allemand. « Madame, lui dit-il, je n'aime pas que les femmes s'occupent de politique. » « Vous avez raison, mon général, lui répondit-elle. Mais dans un pays où l'on coupe la tête aux femmes, il est naturel qu'elles aient envie de savoir pourquoi. » Il ne répliqua point à cette répartie parce qu'elle était spirituelle. J'ai toujours pensé depuis que si ceux qui l'entouraient avaient su repousser ce qu'il disait d'une manière piquante, il les aurait plus ménagés dans ses discours. On a beaucoup cité dans la suite des choses humiliantes et dures qu'il s'était permises envers les hommes et surtout envers les femmes, disant aux unes qu'elles étaient vieilles, demandant aux autres si elles étaient sages et autres gentillesses de ce genre. Il y a quelque chose de plus involontaire dans ces rapports avec les femmes, mais c'est un sentiment tout à fait opposé à celui qu'elles inspirent d'ordinaire. Ils n'aiment pas ces êtres qui ne sont pas aussi immédiatement soumis à la crainte ou à l'espérance dont ils disposent. Il y a quelque chose de désintéressé dans leur existence qui lui déplaît. C'est à quelques égards comme l'ordre du clergé qui ne relève que du ciel. Peut-être aurait-on vu Napoléon s'essayer à bannir les femmes de cette terre s'il n'avait pas besoin de leurs enfants pour soldats. Il est si vrai qu'il les considère surtout sous ce rapport qu'on l'a entendu plusieurs fois répéter grossièrement à de jeunes femmes « Faites-moi des conscrits !» Comme si le lion, du fond de sa tanière, demandait aux brebis de mettre au jour des petits pour qu'ils puissent les dévorer.
L'autoritarisme vis-à-vis des femmes, le despotisme vis-à-vis des peuples, qui nous fait remonter à l'avant 1715, le règne de Louis XIV. La relation devient de plus en plus difficile entre Germaine de Staël et Napoléon Bonaparte. C'est quasi un combat d'homme à homme. Après qu'en 1802, Constant est exclu du tribunat, Madame de Staël, à son tour, est interdite de séjour à Paris par le premier consul. Joseph Bonaparte, un des frères de Napoléon, a joué en vain un rôle d'avertisseur.
Mon frère se plaint de vous, madame. Il m'a encore répété hier pourquoi Madame de Staël ne veut-elle pas s'attacher à mon gouvernement. Il m'a dit, et qu'est-ce qu'elle veut? Le séjour de Paris, je le lui permettrai. Mais qu'est-ce qu'elle veut?
Mais il ne s'agit pas de ce que je veux, mais de ce que je pense.
Je ne crois pas qu'il soit possible de continuer à marcher lorsque les autorités constituées sont composées d'ennemis. J'ai fait expulser du tribunat une vingtaine de métaphysiciens bons achetés à l'eau. Il faut une épuration. Avertissez bien cette femme que je ne suis ni un Louis XVI, ni un Barras.
Conseillez-lui de ne pas prétendre barrer le chemin, quel qu'il soit, où il me plaira de m'engager. Sinon, je la romprai. Je la briserai. Qu'elle reste tranquille. C'est le parti le plus prudent. Madame de Staël est forcenée. Elle a mis tout à coup contre moi les aristocrates et les républicains. Jamais cette femme ne remettra les pieds en France. Genève, c'est tout ce que je lui permets.
Il y a une partie totalement irrationnelle de leur relation, de part et d'autre. Hein. C'est-à-dire que Staël est vraiment un peu obnubilé par Napoléon, à la fois le modèle politique qu'il incarne, mais aussi sa personne, hein, puisqu'il y a, une rencontre, il y a plusieurs rencontres entre eux qui se passent assez mal. Mais Napoléon est lui aussi, de manière assez surprenante, obsédé par Staël, par le pouvoir qui lui prête, j'allais dire, parce que il y a un pouvoir effectif. Staël écrit des romans, Delphine, hein, qui heurte violemment la politique et les principes napoléoniens. Staël a un salon, Staël reçoit à Coppet ou à Paris, quand elle peut encore y aller, une élite libérale qui évidemment promeut des principes qui ne sont pas ceux de l'Empire. Donc il y a un danger objectif pour lui. Mais il fantasme aussi plus que ça. Et donc l'exil va venir pour lui tenter de régler le problème. Staël dit « Je suis la première femme que Bonaparte exila ». C'est un fait, hein, c'est vrai. Il va après chercher tous les moyens de s'en débarrasser, de la neutraliser. Donc il n'arrivera jamais à faire taire Staël, et qui trouve, elle, dans son opposition à cet adversaire, un ressort intellectuel et politique sans précédent. Elle a l'honnêteté de dire à la fin de sa vie « m'a rendu service hein, ». Sans lui, j'aurais pas écrit autant, ni pensé autant.
Il y a comme une jouissance physique dans la résistance à un pouvoir injuste.
La vie de Madame de Staël exilée va dorénavant ressembler à un mouvement pendulaire. La Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, les provinces françaises, quand il lui est permis d'y mettre un pied. La police de l'empereur ne la laissera jamais approcher à moins de 140 km de Paris. Alors que le Corse veut asservir l'Europe, je la cite, à ce qu'il regarde comme la grande nation, la française. Elle s'intéresse de plus en plus au mouvement des nationalités, moins puissantes mais que l'occupation française, à travers l'Europe, allume et entretient. En 1810, elle tient prêt un ouvrage auquel elle tient beaucoup, de l'Allemagne.
De l'Allemagne est un manifeste contre la suppression de la liberté de l'esprit en France. La France silencieuse de Napoléon produit une nation de perroquets courtois, tandis que les Allemands sont les sauvages nobles de l'Europe. Elle nous propose de rajeunir notre culture à leur source.
Elle défend les conquêtes de la Révolution sans en approuver les violences.
Elle devient la conscience de l'Europe, en face d'un ennemi devenu redoutable.
Et si l'on réfléchit que le seul crime de cette femme qui le rendait si malheureuse était une conversation animée et brillante, et que celui qui la poursuivait disposait d'une autorité sans bornes, on ne peut se défendre d'une indignation mêlée de pitié pour un pouvoir si timide d'une part, et si violent de l'autre.
Elle s'est attendue à des difficultés autour de l'Allemagne. La censure n'a pas manqué d'en faire. Elle s'était résolue à des accommodements avec elle. Sa surprise est grande quand elle apprend que les premiers exemplaires d'une édition en principe autorisée sont saisis à la sortie de l'imprimerie, mieux pilonnés, lacérés. Il ne va en subsister que 4. La coupe est pleine.
Monsieur Lebrun, Madame de Staël a sauvé des copies de son livre de l'Allemagne et décide de partir l'imprimer à Londres, quitte à fuir sa résidence forcée par Napoléon.
Résidence plus que surveillée avec des agents et des jumelles, Ses écrits ne peuvent pas en sortir, ses amis y venir, les précepteurs de ses enfants s'y tenir. Alors nous sommes maintenant au printemps 1812. Partir vers Londres, mais par les terres, parce que les mers sont contrôlées par le blocus continental, et puis elle-même a très peur de la mer. Stéphanie Genon.
Un des voyages les plus rocambolesques. Moi, j'adore, par exemple, la scène où elle part. Parce qu'en fait, vu qu'elle est surveillée par des mouches, comme on les appelle à l'époque, hein, des espions qui ont des jumelles rivées sur le château de Coppet pour Bonaparte et lui dire tout ce qu'elle fait de ses faits et gestes, elle sait qu'elle ne pourra pas partir avec ses bagages, etc. Donc là, elle a une ruse. Ça, j'adore. C'est mon épisode préféré, je crois, de la vie de Stahl. Elle se dit comment faire. Donc, en fait, elle prend des complices. Stahl a ses complices masculins, elle est entourée d'hommes. Elle en a au moins 8 qui l'aiment, qui sont tous persuadés, entre parenthèses, d'être ses favoris. Et donc, grâce à ses complices masculins, elle fait partir ses bagages. Donc, elle a plusieurs complices comme ça qui emmènent les bagages à l'avance. En Autriche, par exemple, ils font un relais. Donc, elle, ses affaires sont déjà parties. Et le jour où elle part, c'est en mai, un jour de mai, elle prend juste sa fille avec elle. Et elle fait semblant d'aller pique-niquer au bord du lac. Et elle dit « Je vais pique-niquer au bord du lac ». Et du coup, les espions qui la regardent, bon, la voient partir avec son petit panier et surtout sa fille. Donc, ils ne soupçonnent pas du tout qu'en portant une gamine qui doit avoir, je sais pas, une dizaine d'années, même pas, elle ira entreprendre un voyage aussi dangereux. Par contre, c'est là que c'est drôle, c'est que les espions rapportent qu'en fait, étonnamment, alors qu'elle part pique-niquer au bord du lac, les domestiques pleurent. Et ils comprennent pas pourquoi les domestiques pleurent alors qu'elle va pique-niquer. Mais nous, on le sait. Ils pleurent parce qu'elle part et qu'ils sont pas sûrs de la revoir. Alors c'est génial cette scène, moi ça me bouleverse à chaque fois. Et donc ils la voient partir, ils comprennent pas cette séance lacrymale sur les marches de Coppet. Et elle part. Et elle, sauf qu'elle va pas du tout pique-niquer, qu'elle emmène sa fille et qu'elle fait ce voyage Ukraine, etc. Et le temps que les espions se rendre compte que le soir, elle n'est toujours pas rentrée du pique-nique. Ça, j'adore aussi. Il est viré, l'espion, hein, le lendemain, parce qu'en fait, le temps qu'il... Enfin, 3 jours plus tard, 3-4 jours, ils mettent à se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas rentrée au château. Et mais vu qu'il n'y a pas de bagages emportés, rien. Et du coup, le temps qu'ils se rendent compte, c'est bon. Elle est en Autriche.
Puis en Ukraine, oui, c'est une équipée improbable. La Pologne. Moscou. Mais précisément au moment où Napoléon, qui a entamé sa campagne de Russie, menace la ville. Elle pense que l'ogre est à ses trousses. Napoléon a mobilisé 520 000 hommes, c'est pas seulement pour partir à la recherche de Madame de Stahl. Elle est reçue par Rostopchine, le père de la comtesse de Ségur, le gouverneur de Moscou, dans la maison à laquelle un mois plus tard, il va mettre le feu comme à toute la ville. Après Moscou, cette Rome de l'Orient, dit-elle, elle rejoint Saint-Pétersbourg, la Finlande, la Suède, où elle peut s'arrêter puisque feu son mari lui en a donné la nationalité. Elle complote contre Napoléon avec le roi Bernadotte. Puis c'est Londres, l'édition de l'Allemagne. Et enfin le retour à Paris en 1814, mais un Paris occupé par les Alliés et qu'elle reconnaît difficilement. Et à peine son salon rouvert et son rôle de muse de la nouvelle monarchie constitutionnelle étreigné, voilà que, oui, nous sommes maintenant en mars 1815, dans le cabinet du roi Bourbon, Louis XVIII.
Monsieur de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, demande à être reçu par Sa Majesté le roi.
Qu'est-ce que c'est ?
Une dépêche de Chape, administrateur en chef du télégraphe. À voir son agitation, cela semble de la plus haute importance.
Oh, l'agitation ? Est-ce que je me suis agité, moi, durant toutes les années que l'inénarrable Bonaparte à passer à se prélasser dans ce fauteuil. J'ai attendu mon heure et mon heure est venue. Et à présent, le fauteuil est à moi. On y est très mal d'ailleurs, je vais le faire refaire. Vous savez ce qu'elle raconte, votre dépêche ?
Bien sûr que non.
Bonaparte a débarqué en Provence.
On loge tout près. Et ma femme a toujours une bonne soupe de poisson sur le feu. Vous seriez mieux chez nous pour attendre l'arrivée du reste de votre armée.
Tu la vois, mon armée.
C'est tout ? C'est avec ça que vous comptez chasser le roi et sa bande de coquins ?
Eh oui, Napoléon y réussira. Et commence cet épisode inouï. Dès 100 jours, le roi Louis XVIII a fui à Gand et Madame de Staël est repartie à Coppet.
Elle repart ? C'est pour ça qu'elle dit, mais putain, l'histoire n'en finit pas. Vous voyez, et pour elle, c'est irréel. Hein. Par contre, une fois qu'elle est partie, elle est revenue encore une fois à Coppet, elle est obligée de reconnaître, et ça c'est le côté chevaleresque de Staël, qui déteste Napoléon, mais qui en même temps... Ben, c'est pas qu'elle le déteste, c'est qu'elle elle voit très bien tout ce qu'il est, le problème qu'il représente, mais en même temps, elle rend hommage à son adversaire. Et elle dit, bon, quels que soient les problèmes que ça lui pose à elle, c'est son jour, et que ça pose plus grave encore à la France, elle dit quand même quelle énergie, quoi. Quel coup de théâtre. En fait, c'est comme si Staël admirait un peu en scénariste le génie du personnage, alors qu'on s'ennuie. Pour elle, le cauchemar, c'est l'ennui. Vous voyez, l'homme politique... non surprenant. Elle a cette phrase géniale dans Delphine, c'est à propos d'un autre personnage, mais quand elle dit comme ça, il y a des gens qui ne sont pas intéressants dans leur vie entière, il ne se passe rien d'intéressant. Elle dit son avenir, c'est déjà du passé. Il y a des gens, ils sont prévisibles. Pff. Ce qui est bien avec Bonaparte, c'est qu'il se passe des trucs, au moins. Alors elle rend hommage un peu en scénariste au 100 jours, au coup de génie quand même, qui fait que bah, c'est comme si la vie devenait une espèce de film, et là il y a un coup de théâtre génial, donc elle lui rend hommage, comme elle rendra hommage dans ses considérations, dans son dernier texte, aux qualités morales de Bonaparte. Elle dit, cet homme, il était passionné, il a perdu, mais il a joué.
La dernière période sera plus calme. Madame de Staël, revenue dans la capitale, semble à son zénith, intouchable. Mais une mauvaise chute, février 1817, la paralysie, elle meurt le 14 juillet 1817 et va rejoindre à Coppet l'étrange sépulture des Necker, qui est située à 150 mètres du hall du château, et où Necker père et Madame Necker, Suzanne, flottent dans du formol. Madame de Staël, elle, sera enterrée dans un cercueil classique au pied de son père et de sa mère. Et l'année qui suit, paraissent les considérations sur la Révolution. C'est un événement, des dizaines de milliers d'exemplaires vendus en peu de mois. Parce que ce livre permet aux libéraux de se justifier. Ils peuvent se déclarer les enfants des révolutionnaires de 1789. Au fond, la Révolution n'est pas un bloc. La terreur est la fille des circonstances. Ce ne sont pas eux, les libéraux, qu'ils sont les pères de la terreur. C'est un débat qui n'est pas précisément fini. Il n'est qu'à voir la campagne présidentielle de cette année. Nos remerciements à Stéphanie Genant, la présidente de la Société des études staliennes, qui vient de publier chez Flammarion trois nouvelles oubliées de Madame de Staël, Sympathie de la nuit. Nos remerciements à Laurent Theis, qui a édité chez Bouquin les textes politiques de Madame de Staël, les considérations sur la Révolution, 10 années d'exil aussi. Les lectures, Catherine Bussière, à la technique, Virginie Lorda, et à la Maison de la Radio et de la Musique, Anne-Laure Cochet. Les agents d'intelligence service Frédéric Martin, Franck Olivard, et la réalisation Audrey Ripouille.